Bonjour, bon, je voudrais tout d'abord remercier Molly de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir voilà, échanger et apporter un autre aspect aussi sur le sujet dont Molly a parlé aujourd'hui et qui aussi au cours des différents cours que vous avez écoutés. Et donc, j'ai choisi donc de. Surtout de vous présenter maintenant des aspects qui vont être en partie, qui vont recouper, certains qui vont être très proches de ce que des concepts, des idées que Molly a présentées dans son cours, et vous apporter des informations complémentaires au niveau moléculaire, c'est-à-dire comment ça marche, ces différents systèmes qui ont été découverts et mis en évidence. Et expérimentalement, quand il y a un certain nombre de questions qui s'imposent, comment on fait pour répondre à ces questions? Qu'est-ce qu'on a comme outil, outre donc tous les aspects génétiques des populations, et pour comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires? Et donc, je vais prendre des exemples qui sont à la fois issus du travail de mon équipe, puisque c'est vraiment notre projet de recherche depuis. De nombreuses années, et quelques exemples dans la littérature également. Vous avez, je vous, oui, je montre, redirai à la fin, vous voyez ici, c'est ce qu'on peut voir en microscopie, donc surtout il y aura des techniques moléculaires que je vais vous présenter. Il y a la microscopie, la cytologie était extrêmement importante dans le domaine de la méiose. Bon, historiquement, c'est quand même les cytologistes, les biologistes cellulaires qui ont mis en place quasiment les premiers concepts de la ségrégation des chromosomes en méiose. Et aujourd'hui, avec la microscopie à super résolution, on sépare, ce que vous voyez, ces lignes vertes, en fait, c'est des axes. Le vert représente une protéine qui est détectée à l'aide d'un anticorps qui est lui-même couplé avec un marqueur fluorescent. Et cette protéine est localisée le long des axes des chromosomes, ici, qui sont alignés par paires, qui sont en fait en cours d'événements de recombinaison. Ces deux chromosomes homologues qui sont en train d'échanger leur matériel génétique et qu'on voit ici, bon, c'est évidemment de manière extraordinaire par ces techniques de microscopie à environ 100 nanomètres qui séparent les axes des chromosomes. Voilà, ça c'est pour la beauté du sujet. Donc, je vais, oui, ma présentation, je vais faire une petite introduction, mais elle va être rapide. Vraiment, les concepts ont déjà été introduits par Molly. Et ensuite, vous allez voir, ça va être centré autour de l'activité de PRDM9 moléculaire, voir comment on a pu identifier et comprendre et quelles sont les questions qui restent encore aujourd'hui posées par ce système qui était en fait totalement inattendu dans le domaine. Et donc il y a un aspect, Molly en a parlé, de l'activité méthyltransférase, de fixation à l'ADN, et puis des applications évolutives. Je voudrais juste rappeler, donc, puisque j'ai présenté de la cytologie sur ma toute première diapo, que les concepts de base, un petit rappel historique, avec les microscopes de l'époque, donc du début du XXe, c'est Jensen qui a mis en évidence, proposé pour la première fois le concept du chiasma, de croisement, d'échange, enfin de croisement entre les chromosomes, des chromosomes de salamandre qu'il observait et qu'il dessinait selon ses planches. À la même époque, c'est le groupe de Thomas Morgan qui a mis les bases, des concepts de base sur le concept de liaison génétique par les premières cartes génétiques chez la drosophile qui montraient en évidence qu'il y avait des groupes de liaison, des réassociations et des disassociations d'allèles. Il y avait plusieurs modèles à l'époque, mais celui proposé par Morgan, c'est le premier pratiquement modèle de recombinaison en méiose, d'échange entre les chromosomes homologues, qui était effectivement remarquable, parce que ce qu'on peut représenter aujourd'hui, c'est comme ça, mais on connaît évidemment beaucoup plus de détails sur comment ça marche. Ce qui est très important par rapport à tout ce qui a été discuté par Molly sur la distribution des événements, c'est que Morgan, à nouveau, a mis en place en fait le concept de distance génétique, qui est en fait le concept des fréquences de recombinaison. Et Hermann Müller, ici, dans son, bon, c'est en fait son travail de thèse, avait écrit que, selon la théorie du chiasma, la fréquence de recombinaison doit être, dans une certaine mesure, fonction de la distance entre les facteurs. Qu'est-ce que c'est cet index ? Voilà, ça c'était la question. Et vous avez déjà la réponse, Molly vous l'a donnée. En fait, l'index, c'est pour les espèces qui ont PRDM9, ce sont les sites de fixation de PRDM9. Donc on a maintenant une réponse moléculaire à cette question centrale de la transmission héréditaire des caractères. Cet aspect-là qui représente les étapes maintenant au niveau cellulaire qui se produisent lors de la méiose. Donc juste pour rappel, tout ce dont on parle se passe en prophase de méiose. Hein, donc la cellule diploïde va s'engager dans une prophase, une première division de méiose, une deuxième division de méiose, et on génère quatre cellules haploïdes. Donc la problématique de la recombinaison, si on veut questionner ça au niveau moléculaire, on va s'intéresser à la prophase. C'est lors de cette prophase, avant la métaphase, que tous ces événements-là vont se produire. Donc là, je donne des concepts qui s'appliquent à toutes les espèces à reproduction sexuée. Et comme Molly vous l'a indiqué, il y a deux facettes à la recombinaison. Il y a un aspect mécanique, c'est-à-dire que les événements d'échange qui se produisent entre les chromosomes homologues que Jensen avait vus, qu'on appelle des chiasmas, que Thomas Morgan avait détectés, c'est les échanges génétiques qu'on détecte dans la descendance, ces événements sont obligatoires afin d'assurer une ségrégation correcte lors de la première métaphase. En absence de connexion entre les chromosomes homologues, en fait, la cellule ne sait pas comment les séparer à la première division de méiose et va les faire. Alors, il y a des variantes selon les espèces, mais chez de nombreuses espèces, ils vont migrer de manière aléatoire vers un pôle ou l'autre du noyau. Donc, une chance sur deux de se retrouver dans deux pôles opposés, ce qui est évidemment une catastrophe au niveau de la ségrégation et ce qui conduit à la stérilité. Donc, pas de recombinaison, stérilité. Pour cette raison mécanique. L'autre impact, Molly vous en a parlé, c'est évidemment lorsqu'on fait des échanges entre homologues, on augmente la diversité génétique et c'est transmis à la génération suivante. Alors, la particularité, et donc là maintenant on va se refocaliser sur un aspect de cette prophase. Cette prophase, elle est redessinée comme ça, mais vous avez vu ce schéma. Donc il faut faire des échanges. Au moins un par paire de chromosomes homologues. Donc, à un moment donné, il faut casser l'ADN et religuer. Il n'y a pas d'autres alternatives. Donc, ce qui se met en place en début de prophase, c'est un programme d'induction de cassure double brin pour générer ces échanges. Et ensuite, il y a toute une machinerie avec de très, très nombreuses enzymes qui vont venir prendre ces cassures double brin qui ont été induites pour générer les recombinaisons entre homologues. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment la toute première étape, pour plusieurs raisons. D'une part, il est tout à fait étonnant de commencer par induire des cassures double brin, et comme vous le verrez dans la diapositive suivante, des centaines de cassures double brin dans le génome, à un moment où on va transmettre le génome à la génération suivante. Totalement paradoxal. Ensuite, ces cassures double brin, leur position va déterminer les positions des événements d'échange et donc détermine la carte génétique. Donc les questions qui se posent autour de cette étape de formation de cassures double brin, c'est où elles se passent et comment. Donc là, s'il y a d'autres représentations ici sur cette diapo qui sont pas indispensables pour la suite, ce qui est indiqué à droite, c'est la cytologie. C'est pour simplement vous indiquer que par des méthodes de microscopie, de cytologie, on peut détecter et suivre ces événements. Donc, par exemple, ici, vous avez une protéine qui s'appelle DMC1, j'en reparlerai plus tard, elle prend en charge les molécules d'ADN qui ont été cassées pour la réparation. Et avec un anticorps qui reconnaît cette protéine, ça, c'est le noyau d'un spermatocyte de souris. On voit un certain nombre de points verts, en fait, on peut les compter, il y en a environ 200 à 250. Ça indique que dans cette cellule, il y a 200 à 250 cassures double brin en cours de réparation et qui assurent la recombinaison homologue. Alors, il y a des aspects sur lesquels je ne reviendrai pas, qui sont liés à l'organisation. C'est pour ça qu'ici, je le rementionnerai tout à la fin, qu'on sait, vous avez vu sur la toute première diapositive qu'il y avait des protéines qui constituaient l'axe des chromosomes, mais il y a une organisation des chromosomes avec des boucles de chromatine. Bon, donc, il y a énormément de... Lorsqu'on va vouloir comprendre au niveau moléculaire ces événements, on s'intéresse... au point de départ, à un échange au niveau de l'ADN. Mais cet échange au niveau de l'ADN, il se passe sur une molécule qui est elle-même organisée en chromatine, sur un chromosome qui est lui-même structuré avec des boucles le long d'un axe, et tout un ou plusieurs de ces facteurs vont pouvoir rentrer en compte, et à un moment donné, il va falloir éventuellement les observer. Et donc, voilà, ça c'est l'ensemble de la complexité de l'analyse de ces événements. Donc, où se passent ces événements et comment? Ça, ce sont les deux questions, et dans mon équipe sur lesquelles on travaille depuis de nombreuses années. Et donc, où? C'est là où le rôle de PRDM9, puisque Molly vous l'a indiqué, est déterminant. La partie comment, ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, il me faudrait au moins une heure de plus. Je le mentionne parce que ça, vous pouvez vous poser la question. Sachez que donc il va y avoir un autre ensemble de protéines qui vont avoir comme propriété de casser l'ADN. Mais dans un premier temps, on s'intéresse à celle-ci, PRDM9, qui va déterminer les sites dans le génome où ces cassures vont se produire. Alors, les domaines dont Molly vous a parlé sont les suivants. Activité méthyltransférase, domaine de fixation à l'ADN. Donc, vous voyez ici d'abord l'expression de ce gène PRDM9. Donc là, c'est sur des tissus de souris. Donc, ce gène-là, il est exprimé uniquement dans les cellules germinales, et pas simplement les cellules germinales, c'est les cellules germinales qui sont en méiose, dans aucun autre tissu. Bon, il n'a pas de rôle, à notre connaissance, dans d'autres tissus, à part donc testicules ou ovaires. Donc ça, c'est Northern Blot, donc ça permet de voir l'ARN. Vous voyez qu'au vert, ici, il n'y a pas de signal. Donc je l'indique parce que c'est quand même, si on s'intéresse à la méiose, c'est quand même important et d'une manière générale, de se rappeler que la méiose dans l'ovaire a lieu dans l'ovaire embryonnaire, et non pas dans l'ovaire adulte. Et ici, il s'agit d'ARN d'ovaire adulte, donc on ne voit pas l'expression de ce gène, mais si on regarde dans l'ovaire embryonnaire, il est exprimé. Bon, là, ici, il y a une analyse en immunofluorescence avec un anticorps qui reconnaît la protéine PRDM9. Donc, on voit la protéine qui forme de multiples foyers dans le noyau, ici, d'un spermatocyte de souris. Donc, le gène est exprimé, on voit l'ARN, la protéine est là, dans ces cellules et pas dans les autres. Alors, je vais vous montrer quelques expériences qui nous ont permis d'avancer dans la compréhension de ce domaine méthyltransférase. Donc, méthyltransférase, c'est un domaine qui a propriété d'ajouter des groupements méthyl sur différents substrats. Il avait été observé qu'il s'appelle SET, S-E-T, donc c'est un domaine qu'on trouve dans un grand nombre de protéines associées à la transcription. Puisque des modifications d'histones par des protéines sont importantes pour l'activité transcriptionnelle. Et donc, on a, en collaboration avec des biologistes structuraux, on a déterminé la structure de ce domaine, et ensuite, on a fait des tests d'activité enzymatique pour poser la question quel était le substrat de ce domaine méthyltransférase. Donc, je vais vous montrer, parce que c'est indiqué ici, qu'on a trouvé une activité méthyltransférase sur l'histone H3K4 triméthylé, comme Molly vous l'a indiqué, mais aussi K36 triméthylé. Alors, quand on veut analyser ça, il y a plusieurs manières de faire. L'expérience qui était présentée ici, qui est un outil intéressant, c'est que c'est vraiment de la biochimie, en quelque sorte, puisque là, on purifie le domaine méthyltransférase de PRDM9 de souris, et on va l'incuber ici sur une membrane. Et alors, sur cette membrane, par spot, sont déposés des peptides, ce qu'on appelle un peptide array. Chaque spot est un peptide différent de des queues d'histones. Alors vous voyez ici H3, alors 1,19 ou 7,26, c'est les positions des acides aminés. Mais ce que vous ne voyez pas, parce que la légende serait trop complexe à indiquer, c'est que sur ces différents spots, les peptides comportent des modifications. Des modifications qui sont soit des méthylations, soit des acétylations ou d'autres. Donc, par un test comme ça, et le marquage ici qui est détecté, c'est un marquage radioactif au tritium. Et donc, lorsque vous voyez un point noir, ça veut dire que PRDM9 a été capable d'ajouter un groupement méthyle sur le peptide du spot donné. Donc, c'est un test d'activité enzymatique in vitro. Alors, là, pour évidemment interpréter cette donnée, il faut avoir le code de lecture. Et vous voyez déjà tout de suite, d'ailleurs sans autre information, que les peptides des histones H2A, H2B et H4 ne sont pas des substrats pour l'activité méthyltransférase de PRDM9. Par contre, lorsqu'on analyse, maintenant je vous montre avec vraiment ce qu'on peut voir, ici vous regardez à gauche ce panneau, on a un peptide qui porte de 1 à 19 de l'histone H3, qui est modifié par PRDM9. Par contre, si ce peptide est préalablement triplement méthylé sur la lysine 4, il n'y a plus de signal. Ce qui indique donc qu'en fait, PRDM9 méthyle cette lysine 4 lorsque il y a possibilité d'ajouter au moins un groupement méthyle. Donc, par ces comparaisons, qui sont donc déduites de ce panneau qui est en haut, on arrive à déduire la spécificité de substrat de PRDM9 avec, on en conclut donc qu'il y a une activité de méthylation sur H3, la lysine 4 de l'histone H3, la lysine 36 aussi de l'histone H3, et on a détecté in vitro une méthylation, c'est-à-dire la lysine 9. C'est un résultat qu'on n'a pas reproduit in vivo. Donc, ça, c'est évidemment toujours la question posée par les résultats in vitro, c'est est-ce que ça va être vrai in vivo. Et là, on a un résultat qu'on ne confirme pas in vivo, c'est sans doute une spécificité liée au test in vitro. Alors, en ce qui concerne le zinc finger, Molly vous avait déjà indiqué, donc ce qui est vraiment intéressant dans cette structure en doigt de zinc, qui a été caractérisée, sont des domaines qui sont présents dans de nombreuses protéines, notamment des facteurs de transcription, puisqu'elles se fixent à l'ADN et elles interagissent notamment avec l'ADN par principalement trois résidus ici qui ont des coordonnées, moins 1, 3 et 6. Et donc ces trois acides aminés sont en contact avec l'ADN, et pas avec n'importe quoi, avec l'ADN, ils sont en contact avec les bases. Ce qui fait que c'est eux qui vont spécifier la séquence d'ADN qui est reconnue. Et si on change ces acides aminés, la spécificité de reconnaissance, et donc la séquence d'ADN reconnue, va changer. Donc si on prend un domaine à doigt de zinc de PRDM9, ici d'une espèce de souris, Mus musculus domesticus, donc il y a 28 acides aminés, vous voyez, il y a une première particularité ce sera importante pour la suite, c'est que les étoiles, ça veut dire que les acides aminés sont identiques. En fait, tous ces acides aminés, presque tous, en tout cas sauf les deux premiers, sont identiques entre ces différents doigts de zinc. Sauf, et donc il y a quelques-uns qui ont trois positions qui sont des exceptions, qui sont en position moins 1, 3 et 6. Donc il y a deux implications. Il y a un patron de diversité qui est tout à fait inhabituel dans cette séquence génomique, en fait. C'est une très forte diversité aux positions moins 1, 3 et 6. Et, contrairement, une identité quasi parfaite sur toutes les autres positions. Et vous verrez maintenant, je pense qu'on a une idée de pourquoi il y a un tel patron. En tout cas, ça veut dire qu'avec cette spécificité, ce qu'on connaît sur le fonctionnement d'un doigt de zinc, d'une protéine, comment elle reconnaît l'ADN, c'est que si on change, on prend un autre allèle de PRDM9, et ici, vous voyez un variant de PRDM9, maintenant qui vient d'une autre. C'est la même espèce, mais ce n'est pas la même sous-espèce, c'est Mus musculus molossinus, Et vous voyez avec le code ici couleur que cette sous-espèce diffère de Domesticus presque exclusivement par des changements d'acide diaminé aux positions moins 1, 3 et 6. Donc déjà, ça, c'est une curiosité en tant que telle, mais la conséquence au niveau du mode d'action de cette protéine, c'est que cette protéine PRDM9 de Molossinus reconnaît une séquence d'ADN qui est complètement différente de celle qui est reconnue par Domesticus. Donc, en changeant le domaine à doigt de zinc, en changeant pas le domaine adjoint, les acides aminés aux positions moins 1, 3 et 6 d'un domaine à doigt de zinc, on change la spécificité de séquence. Et donc, après, on va voir les implications dont Molly vous a parlé, mais je vous en reparlerai par cet angle-là dans un instant. Et donc, avec des données que Molly a présentées, avec la collaboration qu'on a pu faire avec Molly sur des analyses génétiques des populations, notamment chez les utérites, nous et avec deux autres groupes par des approches différentes, on a été conduit à proposer ce modèle, comme quoi les sites de recombinaison dans le génome étaient spécifiés par PRDM9 et que PRDM9 spécifiait ces sites de recombinaison par le fait de son domaine à doigt de zinc qui reconnaît des séquences spécifiques dans le génome. Donc on estime qu'il y a environ... alors ce sont des séquences d'ADN qui vont être d'affinité variable suivant que le consensus par rapport à ce que reconnaît les doigts de zinc est bon ou pas. Il peut y avoir, on estime qu'il y a environ au moins 15 000, 20 000 sites de reconnaissance d'une protéine PRDM9 dans le génome avec des affinités extrêmement variables. Donc PRDM9 se fixe, modifie par son activité méthyltransférase des histones sur les nucléosomes adjacents. Alors les modifications, pour l'instant, on a identifié deux qui sont vérifiées in vivo. C'est très très difficile d'avoir une vision exhaustive. Un groupe a notamment reporté que PRDM9 a une activité méthyltransférase sur lui-même. PRDM9 pourrait modifier aussi d'autres protéines. On n'a pas les outils aujourd'hui pour avoir cette connaissance de manière exhaustive. Donc, on observe ça, et dans ces sites où PRDM9 s'est fixé, la machinerie qui, elle, va induire les cassures double brin, dont fait partie la protéine SPONSE, puisque c'est celle-ci qui a l'activité catalytique de cassure de l'ADN, va être recrutée de manière adjacente. Alors, ça c'est le modèle, et donc à partir de ce modèle-là, on a évidemment voulu savoir effectivement où PRDM9 se fixe, de valider de manière générale, les concepts présentés par ce modèle, la fixation de PRDM9, les modifications d'estone dans le génome, puisqu'on avait des données in vitro et pas in vivo, et la formation des cassures. Alors, pour en quelque sorte tester en tout cas une partie du modèle in vivo, il faut pouvoir localiser les protéines. Donc, j'aurais peut-être pu... Il prend plus de temps pour expliquer, mais ce chip, ce terme un peu barbare, veut dire chromatin immunoprecipitation, donc immunoprécipitation de chromatine. En fait, donc les expériences que je vais vous présenter, quelques-unes que j'ai choisies, le principe, il n'est pas compliqué, en fait, c'est qu'on a un anticorps qui est dirigé contre la protéine, ici, PRDM9. On va faire une préparation de chromatine, on va immunoprécipiter PRDM9 qui est associé, on suppose, avec l'ADN, et donc en immunoprécipitant la protéine PRDM9, on immunoprécipite l'ADN qui est associé à PRDM9, on récupère l'ADN qui est associé, on le séquence, et on a ainsi une carte qui nous donne la localisation dans une population de cellules de la protéine choisie. Voilà, ça c'est manip de... immunoprécipitation de chromatine et séquençage. Donc, on a fait ça sur, vous voyez, deux souris. Alors, en fait, ces deux souris, j'ai pas indiqué sur la légende. En fait, elles ont deux PRDM9 différents. Justement, comme je vous en ai présenté deux allèles, il y en a un qui est un allèle de type Domesticus. En fait, c'est la souris B6, et cette souris qui s'appelle RJ2 a un PRDM9 de type Molossinus avec des doigts de zinc complètement différents. Et donc, effectivement, par cette technique, on détecte un certain nombre de sites 2600 dans un cas, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus dans la lignée qui est RJ2 en rouge, 10 000. Alors là, difficile de savoir, a priori ça peut être un problème technique. Enfin, on essaye d'homogénéiser au niveau technique. Donc, on pense qu'il y a une véritable signification biologique à cette différence. Et on suspecte, donc là, je spécule un petit peu, que dans cette souris B6, en fait, l'allèle PRDM9 a perdu des sites de forte affinité. Et finalement, il y a effectivement moins de sites de fixation de PRDM9 dans cette lignée que dans celle-ci. Ce qui est, en fait, on a des raisons de penser de ça. C'est en lien avec ce que Molly vous a dit. Je reviendrai à l'aspect d'érosion des hotspots. Alors, on peut représenter ces données qui sont des données de séquençage hein, par des graphes dans lesquels on va centrer, on identifie des pics où la protéine des régions où la protéine s'est fixée dans le génome. Et là, on compte le nombre de reads de séquences qui se sont accumulées sur ces régions. Et donc, voilà, ce qui permet d'avoir une vision de l'occupation de la protéine par rapport à la région où elle se fixe. On peut comparer ces analyses de fixation de PRDM9 avec la localisation de H3K4 triméthylé. Donc en fait, on fait la même type d'expérience, mais une immunoprécipitation de chromatine pour récupérer spécifiquement l'histone H3. Avec la modification méthylation sur la lysine 4. Et lorsqu'on récupère toutes ces séquences en centrant et en comptant les reads sur le centre qui est ici défini comme le site de fixation de PRDM9, on voit ce patron de méthylation, donc il y a un très fort enrichissement dans cette histone de part et d'autre. Donc ça, ce qui, évidemment, soutient totalement le modèle comme quoi PRDM9 se fixe et modifie les histones sur... Alors, vous voyez, une résolution, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez qu'il y a des bosses et des creux, c'est qu'en fait, il y a un positionnement des nucléosomes. Un nucléosome, ça fait 160 paires de bases. Et lorsqu'on a des régions du génome avec des nucléosomes qui sont bien positionnés, ce qui semble être le cas ici, en fait, c'est une information qu'on a ici, on a un nucléosome qui est bien positionné ici, un deuxième nucléosome qui est positionné ici, et ces deux nucléosomes sont enrichis en cette modification d'histone. Donc, en fait, on voit non seulement la modification d'histone, mais on a une trace du positionnement des nucléosomes, en tout cas de ceux qui sont modifiés. Donc, ça nous apporte d'autres informations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Alors, une autre manière de représenter, donc ça, c'est intéressant aussi parce que lorsque vous voyez ces résultats d'immunoprécipitation de séquençage à haut débit, on peut faire des moyennes sur toute une population, c'est bien, ça peut être trompeur parce que quelquefois, la population peut être hétérogène, ce qu'on ne verra jamais lorsqu'on représente tout sous forme de moyenne. Alors, une autre manière de représenter ça, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, heat map. Et donc, ici, en fait, chaque région du génome où la fixation de PRDM9 a été détectée est une ligne. Et donc, le signal rouge se représente lorsqu'il y a un nombre de séquences, puisque c'est ça qu'on mesure, qui est important. Donc, vous voyez que sur une région, sur l'ensemble de ces régions-là, dans la souris qui exprime ici, le PRDM9 de RJ2, ce sont les régions qui sont reconnues par ce PRDM9. On a le signal attendu, et à gauche, c'est le contrôle, en fait. C'est le contrôle de l'expérience. Et la même expérience, ou même type de représentation, maintenant, pour l'histone H3K4 triméthylé, vous voyez à nouveau ces différentes... disons, de répartition de reads avec des régions intenses, puis plus faibles, qui aussi représentent ce positionnement des nucléosomes. Alors, on a vu donc un moyen et donc des données très claires qui montrent la fixation de PRDM9, les modifications d'histone, mais ce qu'on veut savoir, c'est où se forment les cassures de l'ADN, puisque c'est ça l'événement aussi qui, en aval, nous intéresse. Alors là, il y a deux méthodes qui ont été utilisées. Une méthode qui consiste à purifier ce qu'on appelle des complexes oligos. Donc, je ne vais pas rentrer dans la mécanique moléculaire de cette étape de formation de cassure de l'ADN. Sachez qu'il y a une protéine qui est impliquée qui s'appelle SPO11, c'est elle qui fait les cassures. Il se trouve que lorsqu'elle génère ces cassures, elle reste associée de manière covalente au brin d'ADN cassé. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle ici SPO11 oligo, ce sont effectivement une protéine associée avec une séquence de quelques dizaines de nucléotides. Par des techniques, si on purifie ces molécules, si on séquence ces petits brins d'ADN associés à SPO11, on a une carte de tous les sites qui ont été cassés par la protéine SPO11. Donc ça, c'est une méthode qui a été mise au point par le laboratoire de Scott Kinney. Et je vais vous en montrer un exemple. Et une autre une alternative, c'est que plus en aval, donc au cours de la réparation de la cassure, il va y avoir des extrémités simples brins qui vont être générées parce qu'il y a des exonucléases qui dégradent une partie de l'ADN. Sur ces extrémités de simples brins, d'autres protéines vont venir se mettre en jeu, notamment là, une protéine qui fait vraiment la réparation homologue, la protéine DMC1. Et elle se fixe de manière transitoire sur cet ADN simple brin. Donc c'est un autre marqueur moléculaire. Et en faisant une immunoprécipitation de la protéine DMC1, et à nouveau on récupère, on séquence l'ADN associé, on a une autre cartographie indépendante des sites de cassure dans tout le génome. Et ça, ça a été mis au point par le laboratoire de Camerini. Donc avec tout d'abord les oligos, le séquençage des courtes séquences d'ADN associées à SPO11, vous voyez que ici on va cumuler tout le signal du séquençage et il est centré autour des motifs de PRDM9, enfin ceux qui ont été identifiés comme étant des sites de fixation de PRDM9. Et c'est bien à ces endroits-là, dans cette région-là, que l'on détecte les oligos associés à SPO11. C'est donc bien dans ces régions-là que les cassures se produisent. Donc, démonstration directe de la relation entre fixation de PRDM9 et au niveau de la localisation et cassure double brin. Donc, on peut superposer les cartographies des oligos SPO11 avec l'histone H3K4 triméthylé. Bon, ça, évidemment, par transitivité, on retrouve la corrélation. Et après, on peut regarder, je ne vais pas passer sur le détail qui est à droite, sinon je n'aurai pas assez de temps. Et sur DMC1, donc on peut, c'est les analyses de séquençage de ces séquences d'ADN associées à DMC1 mettent en évidence ces pics, c'est pas montré ici sur cette diapo, chacun de ces pics de cassure double brin correspond à une région du génome où il y a un motif reconnu ici par le PRDM9 de la souris bleue, et sur lequel PRDM9 se fixe, etc. Et comme je vous l'avais indiqué, et dans les exemples qui ont été présentés par Molly sur différentes espèces, lorsqu'on change de PRDM9, ou plus précisément lorsqu'on change le domaine à doigt de zinc de PRDM9, tel qu'il est indiqué à droite, là, cette souris verte, les sites de cassure double brin changent radicalement dans tout le génome. Il y a zéro overlap entre ces deux. Donc, une carte génétique totalement différente. Donc, le fait qu'il y ait un gène, comme Molly a présenté, qui contrôle de manière quasiment totale la distribution de la recombinaison dans le génome, et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement surprenant. L'idée qu'il y a des groupes de liaison. Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes de liaison ? Donc là, je fais une petite parenthèse, mais on pourrait se demander, il a été proposé d'ailleurs, qu'il y a des gènes qui ont parfois intérêt à coévoluer. Donc on veut garder des associations d'allèles. Avec un mode de recombinaison dont le patron, la distribution change comme ça selon le PRDM9, ce modèle ne peut plus fonctionner, en tout cas pas de manière aussi simple. Donc, on voit ça. Et maintenant, je reprends les différentes informations au niveau moléculaire qu'on a et qu'on a pu démontrer, donc nous et d'autres groupes, sur ce mécanisme moléculaire. On a donc des sites dans le génome où il y a un motif qui va être un motif de forte affinité pour le domaine à doigt de zinc de PRDM9. PRDM9 va mettre, alors ça je vais vous le montrer parce que ça pour l'instant c'est que des corrélations, cette modification d'histone, H3K4, H3K36, ces sites ce sont les sites où la protéine SPO11 va couper et c'est là où la protéine DMC1 va être recrutée puisque la coupure va être maturée avec des extrémités simples brins qui va être pris en charge par la combinaison homologue. Et évidemment, il faut réparer. Et comme je vous le disais au début, l'enjeu, c'est de comment réparer 200, 300, voire 400 cassures sans aucune erreur. Sinon, c'est la descendance qui est évidemment en danger. Alors, l'activité méthyltransférase, donc comme on a des corrélations, vous voyez aussi que dans le domaine, évidemment, les corrélations, c'est bien, mais ça ne suffit pas du tout parce qu'on veut chercher à comprendre pourquoi, quelle est la signification biologique, quelle est l'importance de ce qu'on observe. Donc, une question que je vous présente quelques expériences sur lesquelles on a répondu. C'était, il y a une activité méthyltransférase, mais quel est son rôle ? Quel est le rôle de ces activités méthyltransférase et de ces modifications d'histone, en tout cas, puisque c'est celle-ci qu'on peut détecter ? Alors, j'ai présenté les noms, je vous montrerai les gens de mon équipe tout à la fin. Donc, la stratégie, elle est simple. Elle est, en fait, de comparer ce qui se passe dans une souris. Donc là, on a fait énormément de génétique de la souris, comme vous avez vu un peu précédemment aussi. Mais ici, donc, on a une souris qui exprime un allèle PRDM9. Alors, il s'appelle Castaneus, parce que c'est celui qui est un des allèles présents dans cette sous-espèce. Et on va le comparer avec cette autre souris qui est tout en bas, où il y a marqué Y357F. Donc, c'est la seule différence. Alors, cette tyrosine Y, c'est la tyrosine de la position 357. Ça, je ne vous l'ai pas indiqué, mais dans les analyses in vitro, on a étudié le domaine 7. Le domaine 7 a été étudié par d'autres domaines, par beaucoup d'autres biochimistes. Et il y a une activité catalytique, en fait, de transfert du groupement méthyle qui dépend d'une tyrosine. Et on avait identifié que la tyrosine numéro 357 de ce domaine 7 était essentiel pour l'activité méthyltransférase. Et donc, lorsqu'on mute cette tyrosine en phénylalanine, on perd complètement l'activité méthyltransférase. Ça, on l'avait démontré in vitro. Et donc, c'est une manière d'avoir un mutant et de poser la question, qu'est-ce qui se passe en absence d'activité méthyltransférase ? Évidemment, ça, c'est beaucoup plus... l'interprétation d'un tel mutant est beaucoup plus facile que si on introduit une mutation nulle qui abolit la fonction du PRDM9. Donc, on va comparer ce qui se passe au niveau de, d'une part, surtout de la méthylation de H3K4 dans ces souris. Alors là, c'est le contrôle, ce que je devrais rappeler ici. Donc, dans ces deux souris qu'on va comparer, en fait, il y a un contrôle, c'est qu'elles expriment aussi un autre PRDM9 qui a un autre domaine à doigt de zinc, mais qui, lui, est actif pour son activité méthyltransférase. Donc, ça nous donne un contrôle interne. Et on a des souris qui expriment deux variantes PRDM9 avec des spécificités de séquence de reconnaissance différentes. Donc, dans l'activité méthyltransférase de PRDM9 contrôle, sur les sites, on les connaît, les sites qui sont reconnus par ce PRDM9 et on regarde le niveau de H3K4 triméthylé, en fait, il est partout le même. C'est ce qu'on attend. Par contre, lorsqu'on regarde le niveau d'activité méthyltransférase sur les sites qui sont reconnus par l'autre variante PRDM9, qui a son activité mutée ici dans cette souris là en vert, il n'y a plus de signal. Donc ça, ça démontre que l'enrichissement en H3K4 triméthylé que l'on détecte au site de fixation de PRDM9 dépend de l'activité méthyltransférase de PRDM9. La question suivante, c'est... on veut savoir en quoi l'activité méthyltransférase et cette modification d'histone est importante pour la formation des cassures double brin. Donc, quelle est la conséquence sur l'étape suivante ? L'étape suivante, on la suit, comme je vous ai indiqué, par... le chip est suivi de séquençage de la protéine DMC1. Alors là, j'ai présenté, non pas une moyenne sur population, mais un exemple. Donc ça, c'est une représentation où on voit une région du génome. Tout en bas, c'est les gènes sur le génome de référence. Donc si on va regarder ce qui se passe, ce qui est encadré directement dans les régions encadrées dans les rectangles rouges, puisque vous voyez ici que dans la souris B6 avec un transgène, hein, il y a marqué TG parce que c'est des souris qui expriment un transgène, ça c'est du jargon pour la génétique, il y a ici un pic donc de DMC1, et on sait qu'ici il y a PRDM9 de cette souris qui se fixe, et dans la souris dans laquelle ce PRDM9, qui a la même spécificité de reconnaissance de l'ADN, mais mutée pour son activité méthyltransférase, il n'y a pas d'activité de cassure double brin. Donc, quand on introduit une mutation dans ce domaine, on perd la modification d'histone et on perd l'activité de formation de cassure double brin. Donc, cette activité méthyltransférase, elle est indispensable pour le processus. Et donc, les autres rectangles disent la même chose. Ensuite, il y a des sites, les sites qui sont conservés et qui ne bougent pas parce qu'il y a l'autre allèle PRDM9 qui nous sert de contrôle interne. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a pris une autre information dans ces analyses, c'est que ces sites qui sont conservés parce qu'ils dépendent de l'allèle domesticus, en fait, leur intensité varie. Alors, vous voyez ici que l'intensité de ce pic est fortement diminuée dans cette souris qui exprime les deux PRDM9 actifs. Donc, là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais formellement, on en conclut qu'il y a une compétition pour l'activité de cassure double brin entre les sites PRDM9, ou une interférence, on peut utiliser le terme selon... on ne connaît pas le mécanisme moléculaire. Donc... ces données plus d'autres expériences, les expériences de différentes équipes qui travaillent sur ce sujet, nous ont vraiment permis d'apporter certains concepts de base du fonctionnement de PRDM9. D'une part, il a un rôle de modification de la chromatine qui est essentiel. Moi, j'étais assez surpris parce que les modifications de la chromatine souvent facilitent des processus, mais ce caractère essentiel, la diminution d'activité de cassure double brin, elle est au moins d'un facteur 100. C'est, donc dans la mécanique du processus, c'est une étape qui est absolument déterminante. Et après, évidemment, la question suivante qui se posera, c'est à quoi sert cette modification de la chromatine? Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, l'activité de méthylation de l'histone H3K4 ou de la chromatine et l'activité de cassure double brin n'est pas directement couplée. On a des analyses quantitatives que je n'ai pas présentées. Qui montre c'est un petit peu ce qui est représenté ici par ce schéma, c'est qu'il y a, il peut y avoir, en tout cas dans certains contextes, un excès de sites fixés par PRDM9 dans le génome, sur lesquels il y aura des modifications de chromatine par rapport au nombre de sites de cassure qui sont ensuite générés. Donc il y a une étape entre la fixation de PRDM9, la modification de la chromatine, et la cassure double brin, il y a une sélection d'un sous-ensemble, un processus qu'on ne connaît pas, qui semble être important et qui contrôle le niveau de cassure. Donc ça, c'est une question sur laquelle nous, d'autres, on essaye de travailler parce que, aujourd'hui, je vous parle de la localisation, mais ces événements de cassure double brin, ils sont contrôlés, pas seulement en localisation, ils sont contrôlés en fréquence. Donc je vous ai donné un chiffre de 300. Par exemple, chez la souris, on prend des ovocytes, ou d'ailleurs les ovocytes, c'est peut-être un peu plus. On a une estimation qui est pas très fiable, mais on voit que ce nombre est régulé. Donc qu'est-ce qui régule le nombre de ces cassures double brin? Et il y a une autre question aussi sous-jacente, c'est qu'est-ce qui régule leur cinétique? Parce qu'ils doivent se former à un moment donné, c'est-à-dire tout en début de prophase, hein, puisque je vous ai indiqué ça. Et puis, il y a une machinerie qui est active, notamment avec cette protéine sponge, mais il faut tout de suite après que les cassures ont été induites, il faut inactiver, évidemment. Voilà. Donc là, il y a d'autres aspects de régulation qui sont en jeu, pour lesquels on ne connaît pas encore beaucoup de choses. Donc, il y a sans doute un excès de PRDM9 et puis un sous-ensemble qui sont sélectionnés. Et ça, on pense que c'est important aussi, qu'il peut donc y avoir des effets de compétition entre allèles. Sans doute ceux qui ont la plus forte affinité vont être les plus efficaces dans l'induction de cassures double brin. Alors, il me reste 10 minutes, je crois, non, c'est ça. Alors, je voudrais donc faire de lien avec les implications évolutives. Donc, je vais reprendre plusieurs points qui ont été abordés par Molly et faire le lien avec ce que j'ai décrit. Maintenant, vous voyez un petit peu aussi au niveau moléculaire comment ça se passe. Donc, l'aspect qui est quand même, pour moi, reste le plus incroyable et qui, à mon avis, est la clé de beaucoup de questions au niveau évolutif, c'est cette caractéristique d'érosion des sites de PRDM9. Donc, Molly vous l'a présenté, je vous présente le même schéma. On sait, et alors donc ça, c'est pas un modèle, parce que ça a été démontré. C'est-à-dire qu'il a été démontré que sur des sites de lorsqu'une cassure double brin se forme, préférentiellement, une petite région de quelques centaines ou moins de paires de bases va remplacer la chromatide qui a été cassée. Donc c'est une conversion génique qui a un biais, et donc ça conduit à une ségrégation non mendélienne, avec un excès de transmission de l'allèle qui n'a pas été coupé. Donc lorsqu'il y a du polymorphisme, évidemment, si un allèle est peu ou pas coupé parce qu'il y a une mutation dans le site de reconnaissance de PRDM9, c'est celui-ci qui va être transmis et donc il va s'enrichir. Et donc, au cours des générations, ce processus conduit à l'érosion des sites de PRDM9 à haute affinité et en absence d'autres forces qui iraient donc compenser cet effet, ça conduirait à la perte des sites de fixation de PRDM9. Donc, en fait, PRDM9 a une activité suicide. Il tue son propre substrat. C'est paradoxal, on se demande pourquoi c'est pas obligatoire. On sait bien comment la biologie moléculaire peut bricoler des mécanismes dans tous les sens, et on en connaît d'ailleurs. On connaît par exemple des enzymes de restriction qui se fixent à un endroit et qui induisent la coupure à distance. Donc ça aurait pu être évité avec un mécanisme de ce type-là. Or, ça, c'est pas ça qui a été, en tout cas, qui se retrouve dans de nombreuses espèces. Donc, il y a quelque chose que je crois que, comme Olivier vous l'a expliqué, qui était vraiment en cours d'investigation pour comprendre comment ce mécanisme, quels seraient les avantages à ce mécanisme. Cette érosion. Ah oui, alors l'érosion alors ça je voulais montrer par rapport aux données expérimentales aussi comment on peut voir l'érosion des hotspots en faisant des analyses aussi de population, mais on le voit par des analyses de d'immunoprécipitation de chromatine. Donc vous voyez ce qui va se passer, c'est que, et là ça va m'amener à des situations de situation de l'hétérozygosité et des hybrides. Ce qui va se passer, c'est que on va prendre le génome en rouge CAST. Donc, cette lignée Castaneus, qui a évolué indépendamment de la lignée Domesticus depuis de nombreuses années, a un certain nombre de sites en rouge qu'on peut détecter au niveau moléculaire. Donc ça, ce sont des sites fonctionnels. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on fait un hybride entre cette lignée Castaneus et Domesticus, on va détecter des nouveaux sites qui dépendent de l'allèle PRDM9 de Castaneus, donc ils sont indiqués par une petite barre verticale rouge, et on les détecte sur le génome de B6. Ce qui veut dire qu'en fait, il a été perdu sur le génome de Castaneus. Donc là, on a une détection moléculaire directe de ce qu'on appelle l'érosion. Bon, l'érosion, après, on regarde la phylogénie pour voir d'où viennent les allèles. Donc ça, c'est ce qui se passe. Il y a de l'érosion dans chacun des lignées indépendamment, Castaneus et Domesticus, et lorsqu'on fait un hybride, on va générer de fait, se retrouver de fait dans une situation où il y aura des sites qui sont dits symétriques, mais un certain nombre de sites asymétriques, qui sont absents dans les autres. Et donc ça, c'est l'observation déjà du phénomène. Là, c'est tel que ça peut être voir. Donc lorsqu'on fait ces analyses de chip et séquençage, alors comme il y a du polymorphisme, on fait le chipsec sur l'hybride, mais chacun des reads de séquençage, à cause du polymorphisme entre ces deux lignées qui est de l'ordre de 1%, les reads de séquençage peuvent être alignés sur un génome ou sur l'autre. Donc on sait si telle séquence qui a été immunoprécipitée vient du génome B6 ou du génome CAST. Donc ce qui permet d'assigner ici, ça permet de voir qu'ici on a une modification de H3K4 sur le génome B6, dans cette région-là, pas sur le génome CAST. Dans cet hybride, à cette position-là, en fait, il y a un site de reconnaissance du site de PRDM9, c'est le zoom de ce qui est représenté ici. Le PRDM9 CAST se fixe sur le génome de B6, mais pas sur le génome CAST. Il y a une mutation de G vers A qui affecte l'affinité de PRDM9. Donc, et ce site de faible affinité pour le PRDM9 de CAST a été très vraisemblablement acquis suite à la conversion génique lors du processus d'érosion présenté sur la diapositive suivante. Donc les hotspots sont érodés. Dans une lignée, l'activité potentielle de fixation de PRDM9 doit diminuer. Donc ça, c'est une première question. Et ensuite, lorsque des hybrides, deux génomes hybrides se retrouvent ensemble, une proportion assez importante, et en fait il y a des hybrides pour lesquels la proportion de ces sites asymétriques s'élève à 70%, sont asymétriques, parce que sur chacun des génomes, il y a une érosion. Et donc la question de l'érosion des hotspots, la réponse, je ne sais pas, la réponse c'est sûrement pas le bon terme, en tout cas le parallèle à ça, c'est la variation du domaine à doigt de zinc de PRDM9. Et ça, je voudrais donc rajouter une information. Je vous avais indiqué au début, montré des séquences d'acides aminés. Je vous avais dit que les acides aminés entre tous les domaines à doigt de zinc sont quasiment identiques, sauf les trois critiques. Mais ça, c'est au niveau des protéines. En fait, si on regarde la séquence codante, il en est de même au niveau nucléotidique. Ce qui fait que ces différents doigts de zinc, indiqués par ces petits rectangles, sont 95% identiques au niveau nucléotidique. Donc ce domaine codant à doigts de zinc de PRDM9 est un mini-satellite, est une séquence répétée en tandem, ce qui est totalement inhabituel dans les autres protéines qui ont des domaines à doigts de zinc par ailleurs. Mais la conséquence de ça, c'est que, étant donné qu'on a une séquence répétée en tandem, tous les gens qui travaillent sur la stabilité de l'ADN savent que c'est très instable. C'est très instable, pourquoi ? Parce que lorsque des fourches des ADN polymérases doivent répliquer de telles régions, elles peuvent facilement faire une erreur et passer d'un motif à un autre sur lesquels elles vont pouvoir continuer leur copie. C'est ce qu'on appelle le replication, je ne l'ai pas marqué ici, replication slippage. Ou, ça c'est une alternative, les séquences répétées en tandem peuvent elles-mêmes recombiner entre elles du fait de leur identité, puisque c'est ça la base de la recombinaison homologue. Donc on a une région codante du génome qui est une des régions les plus instables de tout le génome humain, et PRDM9, c'est le gène qui évolue le plus vite dans le génome humain. Donc c'est tout à fait étonnant. Et il y a quelque chose qui a maintenu cette capacité à recombiner et qui a maintenu cette capacité à... Donc, tant que les séquences sont identiques, elles pourront recombiner. La recombinaison homologue est très sensible au mésappariement, et donc dès que des mutations apparaissent dans ces domaines à doigts de zinc, même des mutations silencieuses, elles peuvent impacter la recombinaison. Et si la combinaison est impactée entre ces séquences en répété, il est clair, on n'a pas d'exemple là à vous donner, mais on peut prédire que la diversité de PRDM9 sera immédiatement affectée. Donc il y a quelque chose qui a maintenu ce processus, et sans doute une sélection, donc Molly en a parlé, sans doute une sélection positive pour cette diversité du domaine à doigt de zinc, sélection positive qui est vue aussi par d'autres analyses. La diversité de PRDM9, c'est quelque chose d'hallucinant, c'est-à-dire que nous, on a séquencé environ 200 allèles PRDM9 dans des souris sauvages, donc j'ai collaboré avec une équipe qui a recueilli des échantillons de souris de l'Europe à l'Asie. On a couvert une partie importante là au niveau géographique. Et sur les 200 souris, on a 78 allèles. Ça, c'est en fait les données les travaux d'une autre équipe de Kuniro Ota et Shiroishi au Japon qui sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc, 200, on a génotypé 200 souris, 78 allèles. Donc, c'est la diversité. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre de copies qui varient. Comme ce sont des séquences répétées, les séquences répétées, quand ça recombine, ça peut créer des motifs qui augmentent en taille ou qui diminuent. Hein, parce qu'on a des recombinaisons homologues, pas forcément entre des copies exactement en même position. Donc il y a nombre de copies qui changent et l'identité de copies qui change, parce que une copie qui va recombiner avec une autre copie qui n'est pas identique par conversion génique crée ces nouvelles combinaisons de motifs. Voilà. Alors dans les hybrides, donc pour terminer sur ce les travaux notamment qui ont été faits par Simon Myers et Peter Donnelly, bon, à la suite de tout ce qui a été fait sur la stérilité hybride par l'équipe de Jerry Forrest, amènent un certain nombre d'informations, pour l'instant que on comprend, pas complètement, mais sur éventuellement une autre implication sur cette... érosion des hotspots, donc il y a l'érosion des hotspots, ça diminue l'affectivité, mais c'est aussi, ça crée, donc là vous avez une autre situation qui est qualitativement la même que celle que j'avais représentée précédemment, vous avez une souris hybride, donc là il y a deux noms différents, on les appelle PWD et B6, peu importe, le principe est le même, et du fait de l'érosion des hotspots, un certain nombre de ces sites sont asymétriques. Et donc ce qui a été proposé, c'est que dans les positions où les cassures double brin ou les fixations de PRDM9 sont asymétriques, la réparation des cassures double brin est moins efficace. Donc ça, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on interprète d'un certain nombre de données qui ont été initialement publiées dans ce travail. Alors moléculairement, on ne sait pas pourquoi et comment ça marche. Toujours est-il que si ceci étant observé, le résultat, c'est que la réparation des cassures, elle se fait, mais moins efficace, mais il y a un problème plus ou moins prononcé, alors suivant le nombre de sites asymétriques, qui pose un problème en méiose et éventuellement jusqu'à bloquer la méiose et conduire à la fertilité. En fait, ces hybrides, là, dans cet exemple-là, parce que ce sont ceux qui étaient caractérisés par Jerry Forrest initialement, sont stériles. Donc, ça, c'est une donnée sur laquelle nous et d'autres, on essaye de comprendre la signification. Parce que si c'est vrai, de manière générale, en fait, la question aujourd'hui, c'est un petit peu, ça a été très bien décrit dans un certain contexte, et on essaye de voir quelle est la généralité de cette observation. Alors la question de la généralité, c'est déjà, est-ce que dans d'autres combinaisons de souris, ce qui est dit ici s'applique? Et chez d'autres espèces qui ont un PRDM9, est-ce que ce phénomène s'applique? Si c'est vrai, ça veut dire que PRDM9 est quelque sorte un senseur, un détecteur de l'hétérozygosité. Et par ce qui a été proposé par Jerry Forrest, en fait, un gène de spéciation. Et donc, comme il a été proposé, c'est des, dans ce cas, si effectivement, ce serait le, donc le premier, le seul, en tout cas chez les mammifères, qui est identifié ou proposé à ce jour. Donc, voilà, c'est avec ces méthodes-là, il semble important de comprendre en quoi ces sites asymétriques, quelle est la conséquence moléculaire. Bon, les aspects moléculaires ne vont pas répondre à tout, mais c'est un des aspects sur lequel plusieurs groupes essayent de répondre. Voilà, donc ça dit la même chose. En fait, la suite, je vais simplement... l'aspect sur la conservation, la présence ou l'absence de PRDM9, donc Molly en a parlé. Ce que je voudrais simplement... terminé en résumant qu'on a sur cette diapositive, il y a ces espèces qui ont PRDM9 et d'autres qui ne l'ont pas. Donc les composants ont déjà été expliqués et les conséquences aussi au niveau de la recombinaison. Donc il y a ce point commun dont en fait ces petits cercles bleus représentent H3K4 triméthylé. Donc il semble assez important, nous au niveau moléculaire, on essaye de comprendre en quoi c'est ce qui se passe autour des sites de cassure double brin, dont notamment les modifications de la chromatine, puisque je vous ai montré en quoi elles étaient essentielles, en quoi elles participent à l'activité de cassure. Et vous avez ici, c'est représenté une boucle, je vous avais montré des boucles sur d'autres diapositives, mais on sait qu'il y a des protéines qui sont essentielles pour l'activité de cassure double brin, qui sont localisées à la base des boucles. Donc on est en train de chercher en fait, le lien entre... les sites et les autres composants qui sont impliqués dans la cassure double brin. Et peut-être que ça nous éclairera sur ces différentes stratégies en présence de PRDM9 ou en absence de PRDM9. Oui, je voudrais juste terminer parce que j'ai présenté quand même des résultats donc, de plusieurs personnes de mon équipe donc, qui sont indiquées ici. Je voudrais aussi quand même indiquer, voilà, il y a beaucoup de travaux. Bon, il y a des approches cellulaires, génétiques, moléculaires. Donc, on a à l'Institut de génétique humaine à Montpellier un certain nombre de plateformes qui sont évidemment essentielles. Des collaborateurs aussi sur différents aspects et qui sont pas, j'ai pas mis une liste exhaustive. Et puis, voilà, au cours des dernières années, comme vous devez l'imaginer, on cherche beaucoup de sources de financement et on en obtient parfois. Donc, je les remercie ici. Voilà. Merci.